Bien, alors ce soir, le thème, c'est donc collectivité locale et laïcité, par Frédéric de la Morena, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Toulouse et membre du comité national de réflexion et de proposition sur la laïcité à l'école.
Bonsoir et merci encore à la JET de m'avoir invité. Alors je viens d'apprendre que ça fait 12 ans que je suis déjà venue, je crois que ça faisait moins, mais bon. Et merci à une étudiante de M1 qui est venue, c'est bien. Alors, laïcité et collectivité locale, j'ai choisi ce thème parce que on pourrait parler du principe de laïcité de façon générale, de façon juridique, pour essayer un petit peu de la préciser, peut-être qu'on le fera. Mais j'ai choisi de parler des collectivités locales parce que depuis un an ou deux, le juge administratif a donné des solutions à certaines questions qui se posent au niveau des collectivités locales. Et il me semble, je vais vous en donner certains exemples, il me semble que ces solutions du juge ont pour conséquence une application du principe de laïcité à géométrie variable au sein des collectivités locales et plus précisément au niveau des communes. C'est trop fort. Alors, en droit, vous l'avez rappelé, l'article premier de la Constitution indique donc que la France est une république laïque. La construction de la laïcité, alors sans revenir sur l'histoire, mais d'un point de vue philosophique, la construction de la laïcité, c'est... Et là, j'emprunterai des paroles ou des écrits d'Henri Pénaruiz, que vous devez connaître. C'est mon philosophe de référence en matière de laïcité, donc c'est vraiment un parti pris. Selon Pénaruiz, la construction de la laïcité, c'est la visée d'un monde qui unit les hommes au-delà de leurs différences. Donc, c'est la visée d'un monde qui va par-delà et au-delà des différences entre les individus. Et donc, à ce titre... La laïcité est liée à la République, c'est-à-dire à la res publica, à la chose publique, à la chose commune. Et donc, comme elle est relative à la chose publique, au bien commun, la laïcité est donc forcément juridiquement relative à l'intérêt général. Et donc, elle est identifiable par la République ou à travers la République, mais elle est aussi identifiable à travers le service public, puisque... Le service public, c'est une activité d'intérêt général. La séparation de l'État et des Églises s'est réalisée en France grâce à la sécularisation des services publics, à un moment donné où l'État va affirmer ses prérogatives par rapport à la religion. Il va devenir ce qu'on appelle en droit un État moderne, c'est-à-dire un État... qui existe par lui-même sans avoir recours à une religion. C'est ce que l'on appelle en droit la modernité politique. Et donc, la laïcité, donc, moi je l'identifie comme ça juridiquement, identifiable via la République, donc ça on pourrait en parler, mais c'est pas trop le thème de ce soir, et identifiable via le service public. Et c'est ce qui nous retiendra ce soir. Alors, la laïcité concerne tous les services publics. Tous les services publics doivent être laïques. Le principe s'applique à tous, que les services publics soient nationaux ou qu'ils soient locaux. Et cette laïcité s'applique également aux trois fonctions publiques. Il y a trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et on se rend compte depuis quelques années qu'il y a de nombreuses difficultés qui apparaissent au niveau des services publics. Alors je vais évacuer tout de suite le secteur hospitalier parce que ça ne concerne pas particulièrement les collectivités locales, c'est une fonction publique très particulière. Vous avez dû entendre que dans les hôpitaux publics, il y avait de plus en plus de demandes d'ordre religieux, il y avait... certains patients qui refusaient des soins obstétriques lorsqu'ils sont dispensés par des femmes médecins. Il y a des demandes de repas cultuels dans les hôpitaux, il y a des demandes de plus en plus de prières dans les locaux, voire parfois dans les salles d'accouchement. Il y a aussi des demandes particulières pour respecter les rites qu'imposent certaines religions autour des défunts. Et c'est vrai que les médecins dans les hôpitaux publics ont de plus en plus de difficultés à faire face à ces demandes d'ordre religieux. C'est de plus en plus dur. On s'est rendu compte même au niveau des facultés de médecine qu'il y avait de moins en moins d'étudiants qui prenaient gynécologie obstétrique en spécialisation, parce que ça devient de plus en plus dur. Vous savez qu'il y a des services qui pratiquaient les IVG qui ont fermé également. Voilà. Donc il y a comme ça une montée en puissance des revendications religieuses dans les hôpitaux qui posent vraiment énormément de soucis. Bon, ça mis à part, cette laïcité pose aussi, ou du moins l'application de la laïcité pose de plus en plus de difficultés au niveau des collectivités territoriales. Alors comme vous l'avez dit, c'est vrai que la laïcité, elle interroge les collectivités territoriales de façon plus quotidienne qu'elle n'interroge l'État. Les grands débats nationaux autour de la laïcité, c'est pas qu'ils sont terminés, mais ils sont moins fréquents qu'avant, ils sont peut-être moins forts aussi. Il y avait quoi au niveau national? C'était le pluralisme scolaire, le financement public des établissements privés, toute la grande guerre scolaire. C'est fabuleux comme sujet. Mais c'est vrai qu'on l'a. Ce ne sont pas des débats quotidiens. Alors qu'au niveau des collectivités locales, de plus en plus, on se rend compte que, comme nous avons un État décentralisé, donc comme nous avons des collectivités locales a priori autonomes, elles ont pu, face à ces demandes religieuses, donner des solutions parfois très différentes. Et c'est là où on peut se poser la question. Moi, c'est ce qui m'interroge en ce moment. Comment un principe qui est déclaré au niveau de la Constitution, un principe qui qualifie la République, quand même, la République, elle s'applique sur l'ensemble du territoire, comment un principe donc déclaré constitutionnel, de valeur constitutionnelle, peut voir son application modulée au niveau des collectivités, surtout au niveau des communes, parce que les communes sont libres, au nom de ce grand principe qui est aussi un principe important en droit de la décentralisation, c'est le principe de libre administration, elles sont libres, quand la loi le leur permet bien sûr, d'apporter des réponses à certaines interrogations. Et en ce moment, il y a pas mal d'arrêts qui sortent. Le Conseil d'État est amené à se prononcer sur pas mal de ces questions-là. Alors, beaucoup de services publics sont impactés par cette question d'application de la laïcité. Ce sont surtout les services qui accueillent du public, à savoir l'enseignement, la restauration scolaire, les cimetières, les services funéraires, les services culturels, les services sociaux, les services sportifs. Enfin, il y a un nombre de services qui sont concernés par ces réponses diversifiées qu'apportent les communes à l'application de la laïcité. Donc ça, je donnerai quelques exemples de services publics qui sont concernés. Mais sont également en cause aussi au niveau local les subventions que les collectivités locales, et encore une fois principalement les communes, octroient à des activités d'association. Les associations sont très importantes au niveau local, le tissu associatif est fondamental au niveau local, et on se rend compte là aussi que de plus en plus de subventions publiques sont versées à des associations, alors on verra de divers types, mais là aussi, parfois elles sont versées, parfois les communes refusent de les verser. Donc là aussi, que dit le droit? Il n'y a pas une réponse nationale, unique, pour faire face à toutes ces questions-là. Voilà, c'est un petit peu l'objet, enfin non, c'est pas un petit peu, c'est l'objet de la réflexion que je me propose de faire ce soir. Alors, deux grands moments, d'abord au niveau des services publics. Je ne vais pas tous les prendre, je vais prendre certains services publics qui ont donné lieu à des arrêts, à des contentieux depuis un an ou deux. Alors, le premier service qui pose énormément de soucis aux élus, c'est la restauration scolaire, les cantines. Alors, le contexte est toujours le même. On assiste depuis quelque temps à une augmentation de demandes de repas que moi j'appelle rituels, de repas rituels dans les cantines publiques, bien sûr. Certains groupes, certains parents voudraient que soient respectés les rites de préparation dans les cantines scolaires, donc les rites israélites, les rites musulmans. Et les élus sont de plus en plus confrontés à ces demandes qui parfois sont source de véritables tensions au niveau local. Ça dépend dans quelle commune on se trouve, mais source de tension parce que parfois il y a des enjeux communautaires qui sous-tendent ces demandes. Et là, les élus locaux sont seuls à faire face à cette question. Alors, que dit le droit? On va essayer de le chercher, on va voir qu'il ne dit rien. Mais bon, on va quand même essayer d'aller... C'est ça le problème. On va chercher le droit, et puis des fois, il dit rien, et puis des fois, il dit des choses, mais on peut les interpréter de différentes façons. Donc, il y a un flou artistique, me semble-t-il, sur l'application de ce principe. Alors, en 1905, le législateur a pensé à pas mal de choses, mais il n'a pas pensé aux prescriptions alimentaires. Ce n'était pas son souci. C'est vrai qu'il avait quand même autre chose à faire en 1905. Aucune réglementation, donc, n'existe en la matière. Mais il semble qu'il y ait actuellement une tendance au durcissement des positions de la part des maires après une période plus tolérante à l'égard de la prise en compte de ces revendications-là religieuses. Alors, pourquoi un durcissement? Je peux citer, par exemple, la charte de la laïcité dans les services publics. Alors, ce n'est qu'une charte, c'est-à-dire qu'une charte, c'est un code de bonne conduite, ce n'est pas du tout un texte obligatoire qui s'applique, mais bon, c'est vrai que ça guide, voilà, c'est un guide. La charte de la laïcité dans les services publics indique, je cite, « Les usagers du service public ne peuvent exiger une adaptation du fonctionnement d'un service public ou d'un équipement public, donc c'est clair, mais suite de la phrase, cependant, le service s'efforce de prendre en compte les convictions des usagers dans le respect des règles auxquelles il est soumis et de son bon fonctionnement. » Donc le principe, c'est l'usager n'a rien à demander, on ne peut pas demander une adaptation à nos convictions, mais quand même, il faudrait quand même quelque part que le service s'efforce. Alors en droit, on ne peut rien en faire de ça, parce qu'on pourra toujours dire « je me suis efforcé, j'y suis pas arrivé » ou alors « je m'efforce et puis j'y suis arrivé ». En droit, ça n'a pas de valeur, ça. Mais bon, voilà, elle existe, cette charte. Je citerai aussi une circulaire du ministre de l'Intérieur d'août 2011 qui indique que la laïcité implique une neutralité des services publics à l'égard de toutes les pratiques religieuses. Alors, s'agissant de ce service public-là, de la restauration scolaire, pour le primaire, enfin les cantines, ce sont les communes qui, depuis très longtemps, sont responsables de ce service. Et les départements et les régions sont responsables de ce service, donc dans les collèges et dans les lycées, uniquement depuis la loi d'août 2004. C'est la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales. Et le juge, sur ces contentieux, considère que la commune peut organiser le service public pour faciliter la pratique des prescriptions religieuses, mais ce n'est absolument pas une obligation pour les communes. Ça, c'est la position du juge. Elle peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Alors, pourquoi ce n'est pas une obligation? On peut l'expliquer en droit par le fait que ce service public de la... On va parler que des communes, de la cantine. La cantine scolaire, c'est un service public facultatif. C'est-à-dire que, certes, il relève des communes, mais les communes ne sont pas obligées, en vertu de la loi, de créer et de gérer une cantine. Donc, c'est un service public facultatif. Donc, on peut considérer, c'est comme ça que fait le juge, que les usagers peuvent tout à fait prendre leur repas ailleurs. Donc, ce n'est pas une obligation. Donc, effectivement, elles ne sont pas obligés de faire droit aux demandes de repas rituels. Alors, prévoir des repas, parce qu'il y en a que des communes, il y a beaucoup de communes qui le font, prévoir des repas cultuels, c'est-à-dire généralement des repas sans porc, c'est surtout ça que l'on a dans les cantines, souvent dans les menus qui sont affichés, à chaque fois qu'il y a un repas avec du porc, il y a une petite étoile, et donc repas de substitution. Donc beaucoup de communes prévoient des repas de substitution. Donc prévoir des repas, entre guillemets, cultuels, n'est pas considéré par le juge comme contraire à la laïcité. On pourrait ne pas être d'accord, mais voilà la position du juge. Et l'absence de repas de substitution ne méconnaît pas, selon le juge, la liberté religieuse. Parce que toute la question de fond qui se pose là, c'est la conciliation entre le principe de laïcité, le principe de neutralité et la liberté religieuse qui doit être respectée. Donc, en prévoir des repas cultuels, ce n'est pas contraire à la laïcité, mais ne pas en prévoir, ce n'est pas non plus contraire à la liberté religieuse. C'est tout à fait conforme à la liberté des communes de gérer le service public au nom du principe de laïcité.